midi, le journal de la mi-journée sur Europe 1. C'est avec vous Florence Cohen. Bonjour Florence.
Bonjour Marlène, bonjour à tous.
Le mur de Berlin appartient au passé. La leçon à en tirer, c'est qu'il n'y a pas un mur qui ne peut être abattu.
La solennité d'Angela Merkel pour commémorer le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. La chancelière allemande parle de démocratie en Europe. Une somme forfaitaire pour les victimes d'actes pédophiles commis par des prêtres. Attention, pas une indemnisation, hein, précise l'Église.
La proposition d'une somme d'argent est nécessaire parce que c'est ce qui marque que nous sommes concrètement engagés, que ce ne sont pas que des mots.
Nouvelles accusations de viol contre Roman Polanski. Elles émanent d'une photographe ex-mannequin. Le cinéaste aurait abusé d'elle quand elle avait 18 ans. La ville de Marseille gère mal ses comptes. Temps de travail des agents insuffisants, écoles délabrées, la Cour régionale des comptes épingle de la ville.
Ils ont fait des erreurs grossières, ils vont avoir les réponses et ils ne seront pas déçus du voyage.
Et ça, c'est un proche de la majorité qui répond. À suivre également le journal des sports de Christophe Lamar, un partout entre la France et l'Australie en finale de la Fed Cup de tennis. La météo perturbée et frais, nous dira Valérie Darmon. Et puis à 13h, tout terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. On reparlera de la chute du mur de Berlin.
Europe 1, écoutez le monde changer.
C'était donc il y a 30 ans, jour pour jour, la chute du mur de Berlin, la libre circulation des Allemands de l'Est vers l'Ouest, la fin programmée du glacis soviétique. C'est donc forcément une importante journée de festivité, un grand concert ce soir. Et en ce moment, beaucoup plus de solennité ce matin. Hélène Kohl, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Berlin. La chancelière allemande Angela Merkel, elle-même originaire d'Allemagne de l'Est, s'est exprimée.
Oui, effectivement, lors d'une cérémonie devant un tronçon conservé intact, un tronçon du mur préservé dans son authenticité sans graffiti. Ici même, 5 personnes sont mortes, abattues en tentant de passer à l'ouest. Alors les participants ont glissé des roses dans les interstices des panneaux de béton. À côté d'Angela Merkel, du président de la République allemande, il y avait les chefs d'État de la Pologne, de la Hongrie, de la République tchèque, de la Slovaquie, les pays de l'Est libérés aussi de la dictature il y a 30 ans. Et puis dans un second temps, lors d'une petite cérémonie à l'intérieur de la chapelle de la réconciliation construite sur une Mansland, Angela Merkel a rappelé le message du 9 novembre 89.
Le mur de Berlin appartient au passé. La leçon à en tirer, c'est qu'il n'y a pas un mur. Séparant les gens et limitant leurs droits, aussi haut et large soit-il, qui ne peut être abattu.
Venus de toute l'Europe, il y avait aussi des jeunes qui, eux, ont tenu à faire entendre leurs espoirs et leurs craintes.
Cependant, nous, lycéens strasbourgeois, voyons des nouveaux murs de la honte en construction. Nous sommes effrayés par ces murs physiques et mentaux qui divisent notre société. C'est pourquoi nous exhortons nos citoyens et politiciens à s'écouter les uns les autres.
Et la réponse d'Angela Merkel, c'était qu'elle s'est engagée à faire de son mieux pour encourager encore et toujours la liberté et la démocratie en Europe.
Merci Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 à Berlin, qu'on vous retrouvera à 13h, hein, Hélène, dans Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1 présentée par Fabienne Lemoal. Vous allez nous raconter que la fin de ce mur, il ne reste plus grand-chose bien sûr, mais que c'est désormais une véritable attraction touristique. Hein. Et je vous signale aussi que dans quelques instants, notre invité sera l'historien Nicolas Offenstadt, un spécialiste de l'ex-RDA.
Il est 12h34, la suite du journal sur Europe 1, Florence Cohen.
C'est une initiative symbolique et inédite. Les victimes d'actes pédophiles commis par des prêtres vont pouvoir toucher une somme forfaitaire. C'est la direction prise ce matin par la conférence des évêques de France réunie à Lourdes. L'Église veut reconnaître le silence, la négligence, l'indifférence, Benjamin Peter, mais elle insiste bien, ça n'est pas une indemnisation.
Oui, les évêques ont bien insisté là-dessus. Il s'agit d'une somme unique et forfaitaire, sans distinction, quelles que soient les agressions ou les viols subis, peu importe que les faits soient considérés juridiquement comme prescrits ou non. Une somme symbolique, donc, dont le montant doit encore être fixé précisément pour reconnaître la souffrance des victimes, comme l'explique le président de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort.
Nous croyons important, étant donné ce que les personnes victimes nous disent depuis que nous les rencontrons, nous croyons important de reconnaître donc, que leur souffrance vient non seulement des actes subis, mais aussi de silence, négligence, etc., dysfonctionnement au sein de l'Église. Ce qui est apparu, si vous voulez, c'est que la proposition d'une somme d'argent est nécessaire parce que c'est ce qui marque que nous sommes concrètement engagés, que ce ne sont pas que des mots.
Alors cette proposition a été votée très largement et maintenant la commission chargée de travailler sur cette somme forfaitaire doit définir son montant mais aussi travailler sur la constitution d'un fonds pour permettre de verser cet argent d'ici le mois d'avril prochain, date à laquelle les évêques reviendront se réunir ici à Lourdes. Les fidèles devraient probablement être mis à contribution pour un appel aux dons spécifique pour que ceux qui le souhaitent puissent participer à ce dispositif de reconnaissance de la souffrance.
Merci beaucoup Benjamin Peter pour Europe 1. Quelques jours après la prise de parole d'Adèle Haenel, l'actrice accuse le réalisateur Christophe Ruggia d'attouchement sexuel. Une autre voix, d'autres accusations, cette fois contre Roman Polanski. Le réalisateur est déjà sous le coup de poursuites pour viol. Et ce matin, dans le journal Le Parisien, aujourd'hui en France, une photographe, Valentine Monnier, accuse Roman Polanski de l'avoir violée en 1975 en Suisse, alors qu'elle avait 18 ans. Elle n'a pas déposé plainte, mais sa parole est importante, Yasmina Katou.
Effectivement, même si les faits sont prescrits, Valentine Monnier a choisi de s'exprimer. Dans une lettre ouverte au Parisien, elle affirme avoir été violée et frappée par Roman Polanski. À l'époque, à peine majeure, elle est sous le choc et ne se confie qu'à des proches. 44 ans plus tard, l'ex-mannequin prend la sortie du film « J'accuse » comme une provocation. C'est le déclic. Elle décide alors de dénoncer les faits dans une lettre. Pour l'avocate Anne-Claire Lejeune, le plus important n'est pas de porter plainte.
Ce qui est important, c'est uniquement le fait de briser le silence, dire les faits. C'est ça qui met fin finalement à l'impunité de l'agresseur et qui l'empêche de poursuivre et de renouveler ses actes. Donc je dirais que si aujourd'hui, eh bien, les victimes choisissent les médias, pourquoi pas ? Ce qui compte, c'est vraiment que cette parole se libère. Ça, c'est la première étape.
Mais une fois la parole libérée, parfois la justice s'empare du dossier. C'est le cas dans l'affaire Adèle Haenel. L'actrice affirme avoir été violée par un réalisateur alors qu'elle était mineure. Elle n'a pas porté plainte, mais le parquet de Paris a ouvert une enquête pour savoir si les faits sont prescrits. Si ce n'est pas le cas, le réalisateur pourra être poursuivi malgré son absence de plainte.
Merci. Explication de Yasmina Katou. Une journée nationale d'hommage aux victimes d'attentats aura lieu tous les 11 mars. Pourquoi cette date ? Parce qu'elle commémore l'acte terroriste de la gare d'Atocha à Madrid le 11 mars 2004. Cette annonce arrive à la veille des commémorations du 13 novembre à Paris. Dans un instant, gabegie marseillaise et opposition de tous les côtés. A tout de suite.
Midi 39, le journal de la mi-journée se poursuit jusqu'à 13h avec vous, Florence Cohen.
Et voilà un rapport qui va faire du rififi à 4 mois des élections municipales. La ville de Marseille est sérieusement épinglée par la Cour régionale des comptes. En cause, le temps de travail insuffisant des agents municipaux, des recrutements irréguliers, une situation financière préoccupante de la municipalité, des écoles délabrées et un stade Vélodrome qui paye un loyer trop modeste à la ville, 5 millions d'euros par an alors qu'il devrait en régler 8. C'est moche, alors que l'actuel maire Jean-Claude Gaudin des Républicains doit laisser son fauteuil. En tout cas, ce réquisitoire, sans appel, n'est pas du goût de Bernard Payan. Il est le chef de l'opposition socialiste à Marseille.
Marseille mérite d'être au service de ses habitants, pas au service de quelques intérêts particuliers. Et c'est ce que pointe la Chambre régionale des comptes. Je dis que les écoles sont dans un état catastrophique. On explique que le PPP sur le stade Vélodrome est une gabegie financière. On a expliqué qu'il fallait aider nos agents municipaux à travailler différemment. Ça faisait rire la majorité municipale, eh bien aujourd'hui la Chambre régionale des comptes nous donne raison et met en lumière une gestion dépassée, une gestion que les Marseillais ne méritent pas.
Et évidemment, Yves Morenne, président du groupe de la majorité Les Républicains au conseil municipal, dénonce ces accusations. Il porte un regard partiel et partial.
Ils sont passés à côté de beaucoup de sujets, ils ont fait des erreurs grossières. J'invite l'opposition, les Marseillais et même les magistrats de la Chambre régionale des comptes à être bien à l'écoute, puisqu'ils voulaient un procès, ils vont avoir les réponses et ils ne seront pas déçus du voyage. On ne va pas se laisser faire, on va répondre. Et nous le démontrerons lors du débat du 25 novembre.
Un dossier réalisé pour Europe 1 par Sophie Eschen et Stéphane Fragy. Les plus grands chefs de la gastronomie française sont aux Antilles. Pas pour des vacances, non. Ils mettent leur savoir-faire immense au service du tourisme. Tout ce week-end, sur l'île de Saint-Barthélemy, quelques grands chefs étoilés du guide Michelin vont cuisiner des petits plats d'exception pour attirer les vacanciers les plus fortunés d'Amérique du Nord, Pierre Herbulot. Et bon appétit si vous êtes à table.
Un riz de veau laqué et son caramel de carottes cuisiné par un chef étoilé français. Et c'est toute l'Amérique qui se presse à Saint-Barth. Nils Dufault, le président de l'Office du tourisme qui organise le festival, l'a bien compris. En faisant venir chaque année des grands chefs cuisiniers de la métropole, il a réussi à allonger la saison touristique.
Normalement, notre haute saison commence avec le Thanksgiving, en gros la dernière semaine de novembre. Et donc, ça permet d'amorcer la saison déjà début novembre, grâce à cet événement. Il y a maintenant beaucoup de monde qui vient à Saint-Barth pour spécialement faire cet échange gastronomique, cette expérience.
La gastronomie française à 2 heures de Miami. La recette fonctionne. Stéphane Buron, meilleur ouvrier de France à Courchevel, invité de cette édition 2019, le constate à chaque service.
C'est de voir les yeux tout étincelants des personnes en disant « Waouh, ouais, c'était magnifique. Hier, on s'est régalé avec la tome, avec le Beaufort en écume. »
Une clientèle américaine fortunée qui, en plus de profiter du meilleur de la haute cuisine française, reste 1 ou 2 semaines de plus dans les hôtels de luxe du bord de mer. 2 ans à peine après les ravages de l'ouragan Irma, l'île s'apprête à battre un record de fréquentation touristique. À Saint-Barthélemy, Pierre Herbulot, Europe 1.
Le journal des sports.
Et c'est avec vous, Christophe Lamarre, bonjour.
Bonjour.
La 13e journée de Ligue 1 de football, le PSG se déplace à Brest cet après-midi. Le leader du championnat face au promu, ça paraît un peu déséquilibré quand même. Hein,
oui, mais cela n'empêche pas les Brestois d'avoir de l'ambition, celle de contrarier les Parisiens. Les Bretons sont tout de même 9e au classement. Et comme le rappelle le milieu de terrain Ibrahima Diallo, on n'a pas l'intention de jouer petit bras. Le PSG a déjà perdu 3 fois cette saison en championnat, comme Brest d'ailleurs. Et alors répond avec tact l'entraîneur parisien Thomas Tuchel, à tout prendre, mieux vaut perdre en novembre qu'en janvier.
On a perdu 2 matchs contre Reims et contre Dijon. C'est un peu atypique pour nous, mais ok, c'est comme ça. Je déteste de perdre, mais je préfère de perdre maintenant et pas en janvier ou février ou mars, dans une phase absolument décisive.
Propos recueillis par Julien Froment, Brest-Paris Saint-Germain cet après-midi à 17h30. Hier soir, en match avancé de cette 13e journée, Nice a été tenu en échec sur sa pelouse par Bordeaux, 1-0.
Et il y a 4 autres matchs de Ligue 1 au programme de ce samedi.
Lille-Metz, Monaco-Dijon, Reims-Angers et Strasbourg-Nîmes. Ces 4 rencontres débuteront à 20h, à suivre en direct ce soir dans le multiplex d'Europe 1 avec Lionel Rousseau. Le football toujours, l'équipe de France féminine affronte la Serbie ce soir à Bordeaux, coup d'envoi à 21h. Match comptant pour les qualifications à l'Euro 2021. Ce sera sans la meilleure buteuse tricolore Eugénie Le Sommer qui a déclaré forfait en raison d'une blessure. Enfin, à l'étranger, Arsène Wenger dément avoir été récusé par le président du directeur du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge. L'entraîneur français, libre depuis son départ d'Arsenal, confirme qu'un contact a été établi avec le club bavarois à la recherche d'un nouvel entraîneur. Nous avons convenu de nous appeler la semaine prochaine. L'histoire en est là, explique Arsène Wenger.
Et le tennis à présent, 1-1 entre l'Australie et la France en finale de la Fed Cup. Tout est encore possible.
La numéro 1 française, Kristina Mladenovic, avait lancé cette finale de la meilleure manière. Victoire en 2 manches face à Ayla Tomljanovic, 6-1-6-1. C'était sans compter sur la numéro 1 mondiale qui lui a succédé sur le court. L'Australienne Ashley Barty a balayé la Française Caroline Garcia en 2 manches, 6-0-6-0. Cela s'appelle un prêté pour un rendu avec les intérêts. 1-1 donc avant le double et les 2 derniers simples la nuit prochaine. Le capitaine Julien Beneteau préfère avoir le verre à moitié plein.
1-1 balle au centre. Chaque équipe a marqué un beau but. Alors on a commencé avec Christina qui a fait un match exceptionnel, qui nous a lancé de manière idéale en tant que leader de cette équipe. 1-0, rien à dire. Et Barty a répondu en étant fantastique, en faisant honneur à son rang de numéro 1 mondial. On est dans les temps et ensuite on verra. Mais voilà, Caro va se remobiliser, on va l'aider. Et pour l'instant, on va se concentrer sur chaque match, mais demain, ça risque d'être long.
Julien Beneteau au micro de Corinne Boulou. Le double et les 2 derniers simples donc se joueront la nuit prochaine à partir de 4h du matin, heure française.
Et le reste de l'actualité sportive en bref ?
Le top 14 de rugby, 5 rencontres aujourd'hui. Toulon-Montpellier à 15h30, 3 matchs à 18h. Bordeaux-Bègles-Agen, Castres-Brive et Bayonne-Pau. Enfin, à 20h45, Toulouse recevra Clermont.
Et merci, c'était le journal des sports signé Christophe Lamarre. Allez, la météo maintenant. Bah, écoutez, c'est pas folichon, hein, Valérie Darmon.
Effectivement, sur le nord-ouest de la France, une perturbation accompagnée de pluies régulières. Arrivée ce matin sur le Finistère, se déplace lentement. On la trouve désormais à l'heure où on se parle sur toute la Bretagne, les Hauts-de-France, le bassin parisien, les Pays de la Loire, le centre et puis en fin de journée sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Et cet après-midi, les pluies continues, modérées à fortes, vont se renforcer au sud de la Garonne et notamment sur les départements de l'ouest de la chaîne pyrénéenne. Il neige d'ailleurs abondamment au-dessus de 1400 mètres. Sur les Alpes, dès 1200. Et puis du Languedoc-Roussillon aux Alpes, le soleil domine avant l'arrivée de nouvelles précipitations dans la nuit prochaine sous forme de neige vers 1000 mètres en Lozère notamment. Ailleurs, c'est une alternance d'éclaircies et de nombreux passages nuageux qui s'installent. Il fait froid avec 6 à 9 degrés en général, 10 à 14 du sud de la Garonne et en Méditerranée, jusqu'à 16 dans le Var, sur la côte niçoise et en Corse où le temps demeure très agité.
Merci beaucoup Valérie Darmon. Dans un instant, on va se retrouver avec notre invité, l'historien Nicolas Offenstadt. Il est spécialiste de l'ex-RDA et il va nous expliquer pourquoi on se retrouve de la chute du mur de Berlin où nous avait vendu un vent de liberté échevelé à beaucoup de populisme aujourd'hui partout en Europe. On va essayer de comprendre.
Midi 50, la suite du journal sur Europe 1 avec à présent votre témoin de la semaine, Florence Cohen.
C'est une journée de commémoration en Allemagne, commémoration du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Mais dans quel état sommes-nous, nous, l'Allemagne et l'Europe tout entière, trois décennies après cet événement historique? Avec nous, Nicolas Offenstadt, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, auteur notamment de Le pays disparu sur les traces de la RDA aux éditions Stock. Alors, ma première question va être d'ordre sémantique. Annexion ou réunification des deux Allemagnes? Vous savez que le Monde diplomatique avait titré il y a quelques jours sur le mot « annexion ». Jean-Luc Mélenchon lui avait emboîté le pas en disant que c'était le mot juste. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Il faut redonner un peu de contexte aux auditeurs. Pourquoi est-ce qu'il y a ce débat? D'abord parce qu'il y a eu ce même débat en Allemagne dans les années 90. Donc ce n'est pas nouveau, ce n'est pas lié à l'article du Monde diplomatique et aux réactions de Mélenchon contre Bendit. Dans les années 1990, en Allemagne, il y a toute une partie des gens qui étaient critiques du processus de réunification, plutôt à gauche évidemment, certains qui avaient été plutôt fidèles à la RDA, mais pas tous, qui disaient « ce qui est en train de se passer, c'est une colonisation ». On a parlé de colonisation en référence au chancelier Helmut Kohl qui était l'artisan de l'unification. On a parlé d'Anschluss, donc annexion. Donc vous voyez, c'est un débat qui n'est pas neuf. Si vous vous basez sur les élections, les premières élections dites libres en mars 1990, dans ce qui était toujours la RDA, il est clair que les Allemands de l'Est ont voté à majorité pour les partisans d'une unification rapide. Maintenant, si on regarde le processus après, il faut bien constater que l'ensemble des institutions de l'Allemagne de l'Est ont disparu et ont été absorbées. On parle même d'une république avalée.
Et il y a l'aspect politique, mais il y a aussi l'aspect économique. Économiquement et socialement, ça a été d'une violence inouïe pour les ex-Allemands de l'Est.
Mais oui, l'Allemagne de l'Est, évidemment, c'était une dictature qui était une dictature de surveillance policière, on le sait bien, mais c'est aussi une dictature protectrice d'une certaine manière, puisque le droit au travail était garanti, donc pas de chômage. La protection sociale était généralisée, la santé, la culture étaient à moindre coût gratuites. Donc les gens sont passés de ce monde-là à tout d'un coup la précarité, le chômage. Ce n'est pas seulement une rupture économique, c'est aussi évidemment votre monde social qui s'effondre. Donc c'est effectivement ce qui s'est passé dans les années 90.
Est-ce que c'est comme ça que l'on explique, et là je fais un bond dans le futur, l'avènement de l'AFD, le parti d'extrême droite allemand, ou aussi le mouvement Pegida, totalement anti-musulman, qui prospère à Dresde, en ex-Allemagne de l'Est? Il y a une partie de l'explication là-dedans?
Comme tous les phénomènes électoraux, il y a toujours plusieurs facteurs, il y a toujours plusieurs explications. Alors, on voit certaines spécificités de la région, de la Saxe, par exemple, pour le mouvement Pegida. On voit aussi, évidemment, parfois c'est rattaché à la tradition de la RDA, tradition d'un régime autoritaire. C'est évidemment lié aussi aux crises récentes des migrants en Allemagne. Donc, il y a plein d'explications. Mais moi, je pense qu'effectivement, les années 90 jouent un rôle très important. Il y a eu un véritable ressentiment. Il y a aussi cette idée d'avoir été en quelque sorte toujours dominé et avalé par l'Ouest, qui peut-être effectivement joue un rôle. Plus les gens de l'Est se sentent des citoyens de seconde classe, plus ils votent pour l'AFD et l'extrême droite.
Angela Merkel, chancelière, elle-même originaire d'ex-Allemagne de l'Est, donne une interview récente au journal allemand Spiegel en disant « Le mur est encore dans toutes les têtes ». C'est ce qu'elle dit en substance. Un Allemand de l'Est ne vaut pas un Allemand de l'Ouest encore aujourd'hui?
Si on prend en termes de chiffres, non, puisque les salaires sont plus faibles, sans compter tout un ensemble de traitements différenciés liés à l'héritage, par exemple, de certaines catégories de retraite depuis l'ex-RDA. Et puis il y a aussi, on le voit bien quand même, encore une forme de condescendance, de regard un petit peu des grands frères de l'Ouest qui analysent toujours l'Est avec une forme de paternalisme. Et ça me frappe aujourd'hui. Par exemple, au moment où l'Est semble voter beaucoup à l'extrême droite, on lit des commentateurs de l'Ouest qui disent « Oui, ces gens-là ne sont pas des démocrates, il faut leur apprendre, ils n'ont pas eu l'expérience, en quelque sorte, de la démocratie, puisqu'ils sont passés quasiment sans interruption du nazisme à l'occupation soviétique, puis à la RDA. » À quoi certains de l'Est répondent « Mais qui a fait la révolution de 89 ? Qui a imposé la démocratie ? C'est bien nous, les gens de l'Est. »
Alors, on va en venir dans quelques instants aux répercussions de la chute du mur de Berlin à l'ouest maintenant. Mais j'ai quand même une question à vous poser sur un livre que vous avez tout récemment publié, Nicolas Offenstadt, qui s'appelle Urbex RDA, l'Allemagne de l'Est racontée par ses lieux abandonnés. Urbex comme exploration urbaine, c'est-à-dire que vous êtes allé de façon totalement transgressive, sans autorisation, aller visiter des lieux abandonnés, désaffectés d'ex-Allemagne de l'Est. Qu'est-ce que vous y avez vu? Qu'est-ce que vous y avez trouvé? Et quoi de symptomatique en tout cas?
Et moi, ce qui m'a frappé en me promenant, ce que je fais maintenant depuis très longtemps en Allemagne de l'Est, c'est le nombre de friches, de ruines, de lieux, et notamment des lieux industriels abandonnés. Vous avez partout des maisons qui sont fermées, des usines qui sont à l'abandon, des maisons de la culture de l'époque de la RDA qui sont aussi délaissées. Et du coup, j'ai décidé d'entamer dans ce livre une exploration, en quelque sorte, illégale, parce qu'évidemment, ces lieux ont des propriétaires, même s'ils sont abandonnés, je ne leur demande jamais l'autorisation, et je vais voir ce qui reste de la RDA à l'intérieur. J'y trouve les traces et des explications et des informations sur ce qu'ont été ces années 1990 sur la liquidation de la RDA.
Nicolas Offenstadt, passons à l'ouest maintenant sans mauvais jeu de mots. La chute du rideau de fer, elle a eu aussi des conséquences partout ailleurs. On nous avait vendu un vent de liberté échevelé. Est-ce qu'on s'est loupé? Regardez Donald Trump, regardez le Brexit, même s'il tangue affreusement aujourd'hui, mais enfin le peuple britannique a voté pour. Regardez la Lega en Italie. Est-ce qu'on s'est raté?
Sans doute la chute du mur et ensuite la libération du joug soviétique, disons l'émancipation des différentes nations après 89, s'est fait aussi avec des thérapies de choc aussi, du point de vue économique et social. Ça a été le creusement des inégalités, puisque certains se sont enrichis très vite, on le sait bien. Ça a été aussi de grosses divisions territoriales entre des régions, par exemple pour l'Est, plus tournées vers l'Occident et plus prospères. Il y a des différences de PIB, par exemple en Pologne, entre la capitale Varsovie et certaines régions de 1 à 5. On a parlé de liberté, on a parlé évidemment d'émancipation, mais ça s'est accompagné aussi de servitude économique. Et puis du coup, sans doute, l'Europe continentale n'a pas non plus su fortifier les acquis de 45. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été perdu de vue et qui est assez dramatique du point de vue du Brexit, c'est qu'un des fondements de l'Europe n'était pas de créer une communauté économique libérale, c'est que c'était la paix. C'était la paix après deux guerres mondiales. Et donc un monde de paix, ça veut dire évidemment construire un monde commun, avec des institutions communes. Et aujourd'hui, ce qu'on a laissé se dégrader, c'est cet idéal de paix, cet idéal de construction commune, pour ne faire de l'Europe ou de donner l'impression au peuple que l'Europe n'était qu'une affaire de gestion économique. Et ça, évidemment, ça c'est un loupé tout autant sans doute que la question de la gestion de l'Est post-mur.
Et c'est pour ça aujourd'hui que les nations et les peuples finalement ont envie de prendre leur revanche. C'est également ce qu'on voit dans le Rassemblement national aujourd'hui en France. Si quand même on doit tirer quelque chose de positif, parce que là on dresse un tableau qui est presque pas très drôle des conséquences de la chute du mur de Berlin, c'est quoi? C'est la mort quasi universelle du communisme d'État?
La chute du mur a délégitimé les dictatures dans leur partie évidemment tout à fait oppressive. Mais je pense en même temps qu'il y a un risque dans la manière de penser cette chute du mur, c'est que ça a aussi délégitimé toutes les utopies. Hein, c'est-à-dire qu'on a eu l'impression que finalement, comme ce communisme d'État s'était abîmé dans la répression, dans le stalinisme, dans les polices politiques, dans la surveillance, on s'est dit finalement tout ça, tous les idéaux se sont abîmés, donc ces idéaux étaient eux-mêmes, en quelque sorte, viciés dès le départ. Et ça, à mon avis, c'est une perspective qui est fausse. Il faut quand même avoir gardé une capacité à bâtir des futurs.
Et en tout cas, remettre les choses en perspective. Merci beaucoup de l'avoir fait pour nous sur Europe 1, Nicolas Offenstadt. Je rappelle que vous êtes historien. Merci d'avoir été avec nous. Et on va rester dans le même thème après 13h dans le magazine Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Ils vous raconteront comment ils ont sélectionné les magnifiques archives que vous avez entendues tout au long de cette semaine sur cette antenne.
Europe 1.